Bon, alors, d'abord, je suis très heureuse d'être au milieu de vous. Première chose à vous dire, je remercie donc Clément et le père Florian d'avoir invité, d'avoir pris ce risque considérable. Et je vais essayer de, comme c'est tout simplement ce que m'a dit Clément, c'est un témoignage que je vais vous donner, hein. Un témoignage. Alors, il m'avait dit, votre vocation d'enseignement comme professeur de philosophie, hein, c'est bien ça. Et alors, j'ai dit à Clément que j'ajoutais « et de femmes consacrées », pour faire bonne mesure, hein, pour vous dire un peu, voilà, tout. Et donc, mon plan est extrêmement simple. Un, vocation. Deux, à l'enseignement. Trois, de la philosophie. Quatre, en tant que femme. Ça va, hein? Donc, au moins, c'est facile à retenir. Parce qu'en fin de journée, on est un peu fatigué, alors on ne va pas faire un plan dialectique. Hein, voilà. Alors d'abord, effectivement, je crois que c'est bien que je vous parle d'abord vocation. Hein, donc je commence par la fin, c'est-à-dire vie consacrée. Mais en se rappelant quand même que vocation, c'est d'abord un terme qui désigne tout homme. Hein. Dans la constitution du concile sur qui s'appelle Gaudium et Spes, bon, vous devez savoir tout ça sans doute bien, n'est-ce pas ? La première partie qui est un traité d'anthropologie chrétienne, s'appelle la vocation de l'homme. L'Église est la vocation de l'homme. Donc la vocation, c'est un mot qui vaut pour tout homme, puisque tout homme, par création, est appelé par Dieu, hein, pour est mis debout dans sa liberté pour pouvoir répondre librement à un appel qui est l'appel de Dieu. Hein. Donc ça vaut pour tout homme. Alors, c'est sûr que vocation prend un sens plus précis quand on parle de la vocation baptismale, hein. Et donc, en réalité, on dit la vie consacrée, mais tous les chrétiens sont consacrés, parce que la consécration, c'est d'abord le baptême. Et puis, troisième sens encore plus restreint, et c'est celui auquel j'arrive, la vie consacrée au sens d'une vie qui se consacre à l'Évangile. Hein, et qui, du coup, vous connaissez, je ne suis pas mariée, je n'ai pas de profession retribuée, c'est la vie consacrée. Bien, donc j'appartiens à la vie consacrée. Alors, j'appartiens à la vie consacrée, je ne vais pas vous faire une longue présentation de notre communauté, mais je vous dis quand même ce qui est, me semble-t-il, utile pour comprendre la suite de l'histoire. Hein. Notre communauté s'appelle Saint-François-Xavier. Hein. Saint-François-Xavier, vous savez, c'est l'apôtre, le globe-trotteur qui est parti à l'autre bout du monde au XVIe siècle, hein, et qui est mort aux portes de la Chine. Et notre communauté a fêté ses 100 ans il y a maintenant 5 ans de cela, et du coup, fait mémoire, bien sûr, de sa fondatrice, Madeleine Danielou, qui était une jeune universitaire à la fin du XIXe siècle, hein, élève venue de sa province pour faire des études supérieures à Paris, et découvrant que les jeunes femmes qui accédaient, les jeunes filles et les jeunes femmes qui accédaient aux études supérieures, c'était tout nouveau. Hein. À l'époque, on parlait de la licence des hommes, pour dire la licence tout court. Parce que faire une licence, d'accord, les hommes pouvaient, les femmes, pas question. Il fallait qu'elles s'occupent de la maison et pointeraient. Bon. Voilà. Donc, Madeleine Danielou arrive là. On est dans le contexte anticlérical et positiviste du début du siècle. Et la directrice du Collège Sévigné, où elle avait pris, suivait des cours, lui dit « Mademoiselle, je vous préviens, j'aime mieux vous prévenir, ici on perd la foi en 3 mois. » Au moins c'était net, hein. Et au bout de 3 mois, elle n'avait pas perdu la foi, mais elle a entendu une de ses amies lui dire oh « ben moi, j'ai enlevé la statue de la Sainte Vierge de ma chambre. Tout ça, c'est des contes, ça ne tient pas debout. » Et ça l'a bouleversée. Ça l'a complètement bouleversée. Et elle s'est dit, elle avait 18 ans, elle s'est dit « Mais il faudrait créer des maisons où on puisse à la fois faire des études sérieuses et garder la foi. » Et même entretenir sa foi. Et ça, c'est la première idée. Elle n'a pas du tout pensé à fonder une communauté religieuse. Elle a vu un besoin. Hein. Et c'est intéressant parce que c'est toujours comme ça, je crois. Hein. Vous voyez, Mère Teresa, elle a vu un type qui mourait dans la rue. Hein. Et voilà. Hein. C'est toujours à partir d'une situation concrète. Alors, elle a vu ça et elle s'est dit, il faut faire quelque chose. Et à partir de là, Donc elle a créé effectivement une école normale libre. Alors, école normale, c'est une appellation contrôlée, mais elle avait ajouté école normale libre pour que ce ne soit pas l'appellation contrôlée, et pour former des futurs enseignants. Et à l'époque, les congrégations étaient interdites d'enseignement. Donc elle, elle n'a pas du tout pensé au départ faire une congrégation, voyez. Mais elle a vécu très intensément cet appel, au point qu'elle s'est rendue compte assez vite que ce n'était pas simplement un appel à créer une œuvre, mais que c'était un appel à consacrer sa vie. Elle était mariée, elle a eu 6 enfants. Donc, vous savez, c'est de ces choses qu'on raconte dans les histoires des fondations, hein, qui ensuite, la communauté Saint-François-Xavier, aucune de nous n'est mariée. Hein, on est vraiment une vie consacrée. Mais elle était une laïque, mariée, qui a eu cette expérience intérieure d'une conduite de Dieu, d'un appel de Dieu à livrer sa vie, mais à livrer sa vie dans l'état de vie qui était le sien. Et je trouve ça très intéressant, parce que, vous voyez, ça veut dire aussi que les états de vie, c'est très important dans l'Église, hein, c'est très important, mais le plus important est encore au-delà. Vous voyez, le plus important est encore au-delà des états de vie. Et donc, elle a vécu ça, et il s'est trouvé qu'un certain nombre des jeunes filles qui se sont intéressées à son œuvre, qui ont été prêtes qui voulaient continuer, sont entrées là-dedans, voyez, en se disant, mais c'est exactement ce que je cherche. Hein. Une vie qui soit entièrement consacrée à Dieu et en même temps qui assume la modernité intellectuelle de l'époque. Voyez. Et ça a été le point de départ de notre communauté. Et cette unité, du coup, qu'elle a bien sûr pas saisie tout de suite, entre le besoin éducatif, hein, qui a été son point de départ. Il faut former des jeunes, hein, pour qu'ils soient développés dans leur humanité et en même temps qu'ils découvrent la joie de la foi. Donc ça, d'un côté, et puis l'expérience mystique, on peut dire vraiment qu'elle faisait de l'autre, il y a eu un moment où les deux choses se sont rejointes et où, du coup, l'expérience de la conduite de l'Esprit-Saint qu'elle avait intérieurement est devenue pour elle comme une sorte de enfin, je ne sais pas si elle l'expliquerait comme ça, hein, bien sûr, mais comme une sorte de figure motrice, de figure majeure de ce que pouvait être l'éducation. Parce que, vous savez, on appelle l'Esprit-Saint l'éducateur. Hein, c'est une expression dans le livre de la Sagesse, l'Esprit-Saint, virgule, l'éducateur. Et c'est aussi l'appellation coutumière de l'Esprit comme maître intérieur. Alors, qu'est-ce qui caractérise l'Esprit-Saint comme maître intérieur? Ben, on peut dire, je vous dis en vrac, par exemple, l'Esprit-Saint respecte la création. Hein, il voltait là au-dessus du chaos primitif. Et Dieu a créé un monde qui est beau. Il l'a regardé et il a dit que c'était bon, ça. Et donc l'Esprit-Saint ne détruit pas. Dieu ne sait pas détruire, Dieu ne sait que construire. Il ne détruit que le péché et le mal, mais il ne détruit pas. Donc, l'éducation, il faut qu'on respecte la création. Il faut qu'on respecte, qu'on essaie de promouvoir par l'éducation les ressources de vie, les ressources d'intelligence, les ressources de sensibilité, les ressources d'action qu'un jeune porte en lui. Mais s'il n'y a pas la médiation des éducateurs, ben, on voit bien souvent, ces dons se perdent un peu. Donc, respect de la création. Approche dynamique de l'existence humaine. Parce que nous sommes des via Torres, hein, nous sommes en chemin vers, mais pas vers un truc complètement indéterminé, nous sommes en chemin vers la sainteté. C'est quand même ça la vocation de tout homme. Hein, voilà. Et donc, être capable, dans l'éducation, non seulement d'aider un jeune à déployer son humanité créée, mais aussi qui découvre un peu. Alors je dis un peu parce que voilà, hein, moi quand je dis ça, je me dis toujours, mais est-ce qu'on le fait et jusqu'à quel point on le fait, hein, c'est facile à dire et difficile à faire. Mais voyez, vraiment aussi aider un jeune à découvrir justement son alliance avec Dieu. Hein. Et puis, ça c'est un peu les visées, mais si je parle des modes, ben, l'Esprit-Saint, vous le savez tous par expérience sûrement, il donne très rarement des ordres. Hein? Il pose très rarement des interdits. Par contre, il donne des conseils personnalisés. est souvent beaucoup plus exigeant qu'un ordre ou qu'un interdit. Ouais. Ça, c'est l'expérience de l'Esprit, de l'Esprit Saint éducateur. Hein. Et puis, je ne sais pas comment il fait, mais il arrive à tenir ensemble des choses que nous, on a beaucoup de mal à tenir ensemble. Par exemple, la douceur et la force. Ou encore, la patience et l'exigence. Vous voyez ? Bon, on sent bien que l'éducation, il faut que tout ça soit très vivant dans l'éducation. Hein. Il faut être patient, oui, mais il faut être exigeant. Il faut être doux, oui, mais il ne faut pas être mou. Bon, enfin, voyez tout ça. Et ça, c'est vraiment l'expérience intérieure qu'on peut faire de la conduite de l'Esprit Saint. Et Madeleine Danielou s'est dit, elle s'est dit, ou ça s'est fait en elle sans même qu'elle y pense trop, mais sa conception de l'éducation, parce qu'ensuite elle a écrit des livres, sa conception de l'éducation, c'est vraiment la mise en œuvre, ça, dans le réalisme en même temps, hein, parce qu'on n'est pas l'Esprit Saint, hein, et elle n'était pas plus l'Esprit Saint qu'aucun de nous, mais l'essai pour mettre en œuvre dans une pédagogie ces traits de l'Esprit Saint. Alors, c'est très fort parce que du coup, ça crée une très très grande unité. Vous voyez, bon, je vais dire tout de suite que moi j'ai vécu ma vocation comme enseignante, mais j'ai jamais eu l'impression qu'il y avait d'un côté ma vie spirituelle, puis de l'autre côté mon enseignement. Vous voyez, parce que je savais qu'il y avait un principe d'unité qui était plus fort que la distinction nécessaire et légitime des ordres. Hein, quand on fait de la philo, on n'est pas en train de faire de la théologie. Vous voyez, mais voilà, hein, il y a distinction, mais il n'y a pas séparation. Et du coup, c'est un très beau principe d'unité. Voilà pour ce qui est du premier point. Mais pour le résumer, j'ai un petit texte de l'Écriture auquel je vous renvoie. C'est dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 13 et au verset 44. Vous le connaissez, c'est dans le passage sur les paraboles. Il y a toute une série de paraboles. Alors, je retiens simplement une des paraboles. Donc, Matthieu, ah ben oui, je suis chez Saint-Marc, c'est pour ça que je ne trouve pas. Ça ira mieux chez Saint-Matthieu. Voilà, 13, 44. Alors, écoutez bien, c'est une toute petite parabole. Deux versets. Le royaume des cieux est semblable à un trésor qui était caché dans un champ et qu'un homme vient de trouver. Il le recache, il s'en va, ravi de joie, vend tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Cette parabole, pour moi, c'est vraiment une parfaite description de ce qui m'est arrivé. Parce que, ben voilà, un champ, c'est visible, ça se cultive, ça a un prix, hein, et devenir propriétaire du champ, c'est une certaine exigence de travail, mais aussi une promesse de récolte. Bon. Moi, je vois très bien l'enseignement comme ça. Vous voyez, voilà. On a un champ à cultiver, on essaie de le cultiver du mieux qu'on peut, hein, et avec les ressources qu'on a, et puis effectivement, ben, c'est un travail rétribué, c'est un travail reconnu, peut-être pas énormément, mais quand même socialement. Bon. Mais ce qui change tout, c'est que dans le champ, il y a une perle, il y a un trésor, mais il est caché. Il est caché. Et celui qui va acheter le champ, il ne dit pas à tout le monde, il ne claironne pas tout de suite qu'il y a un trésor à l'intérieur. Vous voyez, il ne le dit pas. Mais il achète le champ. Et une fois qu'il est dans le champ, eh ben, il sait qu'il y a au cœur du champ quelque chose qui n'a pas de prix, quelque chose qui est caché, mais quelque chose qui rayonne dans le champ. Vous voyez. Et il me semble que, moi je vous le dis à partir de mon expérience d'enseignante, mais vous êtes des étudiants, et que ça vaut aussi pour l'étudiant. Pour les étudiants, vous avez acheté un champ, vous êtes en train de cultiver un champ, et dans le champ, il y a quelque part un trésor. Et du coup, ça vaut le coup de passer des nuits blanches sur un master qu'on a du mal à finir dans les temps, ou je ne sais pas quoi, hein, voilà. Bon, bah oui, bien sûr. Bon, bien sûr. Alors, l'enseignement. On m'a demandé là récemment de faire un petit texte pour une revue dont j'ignorais l'existence qui s'appelle Communion et qui est en fait la revue du... Non, qui s'appelle pas du tout Communion. Hein. C'est pas Communion, voilà. Non, c'est la revue qui a été créée par le Congrès Mission. Vous voyez le Congrès Mission ? J'espère que j'ai emporté mon petit passage. Vous voyez ce qu'est le Congrès Mission ? Alors attendez, est-ce que j'ai emporté ce petit truc ou est-ce que simplement j'ai eu l'intention de l'emporter? C'est dans les choses possibles. Sinon, c'est pas grave. Je vais vous dire de vive voix, mais je voulais vous lire le début parce que c'est... Voilà, si c'est ça. Voilà. Alors écoutez bien et voyez si vous êtes... si vous comprenez ça. Évangélisez, pensez donc. Je suis professeur de maths, de philo, technologie. Rien de tout ça n'a le moindre rapport avec l'évangélisation. Que voulez-vous que j'en fasse? Évangéliser? Quelle idée! Je suis prof dans un collège. Mes élèves sont musulmans, athées, indifférents, vaguement chrétiens ou rien du tout. Le mot évangile ne fait pas partie de leur vocabulaire. Le mot évangélisation encore moins. Ils ne m'écouteraient pas une minute. Évangéliser? Jamais de la vie. J'ai un strict respect de la laïcité. Vous n'allez pas me demander de transformer mes cours en catéchèse, si indirecte soit-elle. Ce serait contraire à mon statut et à ma conscience professionnelle. En plus, ça scandaliserait à bon droit mes collègues. Évangéliser? Vous n'y pensez pas. Je suis assurément chrétien, mais je n'ai jamais ouvert un seul livre de théologie. En tant qu'enseignant, j'ai trop conscience qu'il faut être compétent pour enseigner quoi que ce soit. Alors, pas question pour moi de parler de l'évangile. Bon, je décris une situation que vous connaissez. Voilà. Bon. Et qui a comme résultat que des générations d'analphabètes religieux se succèdent dans les collèges et les lycées. Bon. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut envoyer toutes ces objections par-dessus les moulins? Je ne crois pas. Je crois que ces objections ont chacune une petite part de vérité qu'on pourrait analyser, mais ce n'est pas l'objet. Simplement, ce qu'on oublie, et c'est là où j'arrive à l'enseignement, c'est que quelqu'un qui fait de l'enseignement, prof de physique, de SVT, de lettres, de philo, tout ce que vous voulez, prenez n'importe quel enseignement, n'importe quelle matière, il a toujours affaire, en réalité, à la question de la vérité. Il a toujours affaire à la question de la vérité. Ouais. D'autant plus que sa discipline est une discipline à la fois infinie dans les découvertes qu'elle peut faire, mais limitée. Hein, quand on fait des maths, on ne fait pas de la littérature, et quand on fait etc. Vous voyez, et que par conséquent, en travaillant cette discipline, il apprend aussi le caractère polyphonique de la vérité. Hein, et qu'il y a des ordres de vérité. Hein, ce que Pascal disait tellement bien. Vous voyez, il y a des ordres de vérité, il ne faut pas tout mélanger. Mais quelle que soit la discipline, le professeur qui fait bien son métier, il sert la vérité, et alors c'est là où je crois qu'on peut dire, en servant la vérité, pas forcément en faisant à côté de la catéchèse, mais rien qu'en servant la vérité, en fait, il est le Jean-Baptiste de Jésus-Christ. Vous voyez ? Parce que Jean-Baptiste, il n'a pas tellement vu les fruits de ce qu'il faisait. Et Jean-Baptiste, il y a des choses qu'il a faites et qui n'étaient pas forcément ce que Jésus a fait ensuite. Vous voyez, quand vous comparez la manière dont Jean-Baptiste secoue les populations et puis ensuite la manière de Jésus-Christ, il y a quand même des petites différences. Mais il faut un Jean-Baptiste, il faut des Jean-Baptistes. Et alors là, je voudrais vous renvoyer à un autre passage de l'Écriture qui est, me semble-t-il, aussi très éclairant. C'est le procès de Jésus tel que nous le rapporte Pilate, que nous le rapporte Saint Jean. Justement, c'est un lapsus tout à fait significatif, parce que justement Saint Jean est le seul à développer très longuement le procès de Jésus par Pilate. Or, vous vous rappelez que dans ce procès, il y a un moment où Pilate, qui sent bien quand même qu'il a affaire à quelqu'un, etc., lui pose la question, mais finalement, qui es-tu? Et Jésus lui répond en lui disant, pas en déclinant une identité civile, mais en disant, je suis venu dans le monde pour être témoin de la vérité. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Si vous lisez le passage de Saint Jean, hein, chapitre 19, eh bien, c'est très... Bien sûr, on n'entend pas le ton. Hein, dans le texte écrit, on n'entend pas le ton, on ne sait pas avec quel ton Pilate a répondu. Mais ce qu'il a répondu, vous le savez sans doute, c'est qu'est-ce que la vérité? Alors, on peut dire qu'est-ce que la vérité? Et puis attendre une réponse. Mais dans l'Évangile, le verset d'après, c'est... Voilà. Le verset d'après, c'est... Il faut que je vous retrouve. trouve ça vaut le coup quand même. Vraiment. C'est au début. Voilà. 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 Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité ? Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs. Autrement dit, il a dû dire, qu'est-ce que la vérité ? Oui, étant donné que tout de suite après, il est parti sans attendre l'ombre d'une réponse. Dans un procès, ce n'est pas le moment de faire un cours de théologie. Ce n'est pas le moment, Pilate est complètement ignorant de la foi juive. Hein, si Jésus avait dit « je suis le Messie », ça ne lui aurait rien dit. Mais Jésus lui a dit « je suis là pour témoigner de la vérité ». Et ça, un enfant de 5 ans, c'est déjà, vous dit déjà, c'est pour de vrai. Autrement dit, il a déjà l'idée, une petite idée de ce qu'est la vérité, de la différence entre la vérité hein, et un enfant de 7 ans, et même avant, c'est très bien qu'il peut mentir, et quelquefois s'en sert. Donc Jésus s'est adressé à sa conscience d'homme, hein, simplement sa conscience d'homme. Et Pilate n'a pas écouté sa conscience d'homme. On voit bien dans la suite du récit, il sait très bien que Pilate, que Jésus est innocent. C'est redit 3 fois par saint Jean. Donc, c'est une manière de dire ce qui a manqué, c'est simplement la droiture d'une conscience d'homme devant la question de la vérité. Et vous voyez où je veux en venir. Une classe n'est pas le lieu de faire un cours de théologie si vous êtes chargé de faire un cours de SVT ou de physique. Les jeunes auxquels vous vous adressez ne sont pas tous immédiatement capables d'entendre l'annonce, le cœur de l'annonce du Christ ressuscité. Hein, si vous avez des musulmans en face de vous, il ne faut peut-être pas commencer comme ça. Hein. Mais vous pouvez toujours les mettre en face du souci de la vérité. Ça veut dire leur apprendre à distinguer ce qui est vrai de ce qui n'est qu'une opinion ou une fake news. Bon, leur apprendre que la vérité suppose un travail. Hein, et que avoir les mots qu'il faut pour dire, pour bien décrire, je ne sais pas moi, ce qu'on voit sous le microscope ou ce que dit un poète, mais on travaille pour la vérité. Et si on travaille pour la vérité, on travaille déjà incognito pour le Seigneur. Ouais. Et voyez aussi le principe d'unité que ça représente. Hein. Simplement ça, c'est déjà très, je pense, très, très fort. Hein. Voilà, très, très important. Ouais. Voilà. Alors, maintenant, enseignement de la philosophie. Ah, oui, bien sûr, vous dites ça parce qu'en philo, on pose la question de la vérité en elle-même et pour elle-même, etc. Oui, bien sûr, hein, ça c'est un privilège de la pensée philosophique, de pousser l'interrogation critique et les ressources de l'esprit humain jusqu'à thématiser et problématiser la notion même de vérité. Oui, d'accord. Mais en fait, je crois vraiment que toute discipline, peut-être pas, le sport, mais même le sport, il y a une vérité du corps humain, si on ne la respecte pas, ça ne marche pas. Quoi. Non, je crois qu'on peut dire ça pour toutes les disciplines. Enfin, on pourra en discuter après, si vous voulez. Voilà. Alors, la philo. J'ai été professeur de philo. La philo, au fond, la discipline qui voudrait honorer la capacité de l'esprit humain à la vérité, cette capacité qui est donnée par la raison, hein, le plus loin qu'il est possible, hein, avec les ressources de la raison, le plus loin qu'il est possible. Vous voyez, on peut peut-être dire ça comme ça. Alors, traditionnellement, vous le savez bien, la philosophie, c'était la reine de tous les savoirs humains, hein, là où venaient converger toutes les sciences. Quand vous êtes à Rome et que vous voyez la dispute de... Non. Ah, en face de la dispute du Saint-Sacrement. L'école d'Athènes. Hein, vous avez d'un côté la dispute du Saint-Sacrement, ça veut dire vraiment le Christ dans sa présence eucharistique, hein, le Christ ressuscité dans sa présence eucharistique. Et en face, vous avez la pléthore des philosophes. Hein. Donc voilà, on n'a pas mis là les scientifiques, on a mis les philosophes. Parce que c'est eux qui représentent l'accès le plus proche à la vérité. Ça, c'était la tradition. Aujourd'hui, on ne peut plus dire ça. On ne peut plus dire ça. Et les philosophes sont les premiers à dire qu'ils n'ont pas ça à dire ou qu'ils ne peuvent pas le dire. Donc c'est clair. On ne peut plus dire ça parce que Kant est passé par là. Je prends l'exemple de Kant parce que c'est très intéressant et c'est pas justement ça évite d'avoir un jugement simplement critique. Hein. Kant est passé par là et Kant a confié aux philosophes les trois questions humaines fondamentales. Vous savez, hein, que puis-je savoir, que dois-je faire, que puis-je espérer, que m'est-il permis d'espérer, hein. Vous savez ça sans doute encore, même si vous n'êtes pas philosophe, hein. Vous savez ça par souvenir de vos classes, n'est-ce pas ? Or, la question que puis-je savoir, globalement, les sciences contemporaines ont assumé cette question, et les philosophes savent bien qu'ils ne peuvent pas dire des choses plus savantes sur la physique que ce que disent les physiciens. Et donc, c'est pris par les sciences exactes et les sciences humaines. La question que dois-je faire aussi dans une large mesure, hein, parce qu'avec la technique, on a beaucoup de solutions, et si on n'a pas les solutions qu'on n'a pas avec la technique, il faut essayer de les avoir avec la politique. Alors il y a quand même encore des gens qui se disent qu'il y a des problèmes éthiques, et que ces problèmes éthiques ont peut-être besoin d'une médiation philosophique. Et ça, je crois que c'est important à entendre, hein, à entendre et à exercer, et à emporter la responsabilité. Hein. Par contre, la troisième question, que m'est-il permis d'espérer ? Et peut-être aujourd'hui la question la plus importante pour la philosophie en général et pour des profs de philo en particulier. Parce que l'espérance, vous voyez, elle ouvre le champ. Hein. Elle ne le ferme pas, mais elle l'ouvre. Et par conséquent, elle permet de mettre en dialogue les espoirs humains et l'espérance spirituelle. Hein. De mettre en dialogue ce que la philosophie morale et politique peut dire et puis l'actualité historique. Qui a l'air de tellement démentir le souci de la justice, le souci de la paix, le souci d'un état de droit, etc. On a l'impression. Mais voilà, que m'est-il permis d'espérer ? Comment est-ce que, par l'effort de la pensée, je peux tout de même dire, il y a de quoi espérer ? On a le droit d'espérer. C'est légitime rationnellement et c'est légitime théologiquement. Mais c'est légitime rationnellement. Et ça, c'est le boulot des philosophes. De montrer que c'est légitime rationnellement. Paul Ricoeur a beaucoup parlé de l'espérance, et moi je rêve toujours d'une thèse que je n'ai jamais faite, et que je ne ferai jamais, qui serait justement d'aborder la pensée de Paul Ricoeur sous l'angle de l'espérance, parce qu'on la retrouve à tous les carrefours de sa pensée, ça pourrait être très intéressant. Enfin voilà, et c'est le lien aussi possible entre la démarche philosophique, qui cherche quand même le souverain bien, hein, c'est... Vous voyez, c'est toute la tradition philosophique. Voilà, l'homme est tendu vers un bien souverain, même si ce n'est pas très bien nommé. Et la promesse chrétienne qui nous dit que ce souverain bien, il est venu habiter parmi nous, hein, et qu'on peut le connaître et le rencontrer et vivre de lui dès ici-bas. Hein. Donc là, l'espérance chrétienne, hein, et l'espérance rationnelle, disons, peuvent se rencontrer sans se confondre. Alors, il me semble que c'est ça un peu la vocation d'enseignement de la philosophie dans le monde d'aujourd'hui. Hein. Ouvrir la raison à sa plus haute espérance. Voyez. La raison, bien sûr, là aussi, on ne va pas faire un cours sur les fins dernières, ni un cours la résurrection dans un cours de philo, non. Mais on peut ouvrir la raison. Hein. C'est-à-dire, par exemple, rencontrer la pensée d'autrui comme un lieu qui va me permettre peu à peu d'élaborer ma pensée propre. C'est pas facile, mais c'est important. Par exemple, exercer l'esprit critique à bon escient. Regardez comme quand vous regardez la presse, comme l'esprit, le véritable esprit critique est actuellement... pas tellement cultivé. Le besoin d'argumenter, apprendre à argumenter, que la vérité, elle suppose un travail de langue, et qu'on ne peut pas dire n'importe quoi, ni écrire n'importe quoi. Exercer l'esprit d'émerveillement. L'esprit critique, bien sûr, mais l'esprit d'émerveillement. Je raconte toujours, pour vous faire sourire, pour les prépas, il y a des entretiens pour les écoles de commerce, hein, puisqu'il y en a beaucoup qui passent les écoles de commerce tout en étant en Cagne. Et donc, les soirées où on fait venir des gens hyper compétents pour les écoles de commerce, je vois les étudiants métamorphosés. Ils sont les garçons, costard, cravate, les filles, petit tailleur, charmantes et tout. Et une année, le lendemain, j'avais cours, ils sont revenus en basket et en jean, et je leur ai dit quand même, en philo, pendant 2 heures, on va fréquenter les plus hauts sommets de la pensée humaine. Et vous vous habillez n'importe comment. Et quand il s'agit d'aller apprendre à vendre, je ne sais pas quoi, moi, eh bien, vous vous mettez sur votre 31. Il y a quand même un truc qui ne va pas. À la fin de l'année, au dernier cours, ils sont tous arrivés, costard, cravate, tailleur, petite robe, etc. Ils avaient compris. Donc c'est bien, voilà. Ben, c'est quand même, voyez, c'est quand même formidable de pouvoir, moi, ça a été vraiment une de mes joies, de pouvoir ouvrir à des jeunes intelligences Platon, Descartes, Spinoza, enfin, qui vous voulez, enfin, pas tout à fait qui vous voulez, mais voyez, ces grands sommets de la pensée humaine, c'est pas indifférent. Et j'ajoute que enseigner la philo pour un chrétien, pour une consacrée, c'est aussi apprendre modestement à exercer la charité de l'intelligence, voyez. Et ça, je crois que c'est important et qu'aujourd'hui, ce n'est pas si fréquent que ça. Hein, au moins, enfin, faut au moins en avoir le désir, voyez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'abord, on se place sur un plan de réflexion où la question de Dieu peut être posée. Vous savez, Heidegger a un passage formidable où il dit, c'est pas tellement... Le drame, c'est pas tellement l'athéisme. Hein. Alors, bon, c'est pas un père de l'Église, Heidegger, comme vous savez, mais là, il a dit quelque chose de très, très, très fort. Il dit, le vrai problème, c'est que les hommes risquent de ne plus jamais se placer au plan où la question de Dieu peut être posée. Ouais. Et ça, c'est pour le coup, c'est grave. La question disparaît parce que personne ne s'est haussé au niveau où la question se pose. Hein. Ou est descendu, ça serait plus exact de dire ça dans l'autre sens, est descendu dans la profondeur humaine où la question se pose. Donc ça, c'est une belle chose qu'on peut faire. Et du coup, vous voyez, les grandes questions de la Bible, hein, les grandes questions de la Bible, c'est quoi? C'est Adam, où es-tu? Qu'as-tu fait de ton frère? Ces grandes... Je prends juste là, hein, faudrait continuer, on pourrait en tirer beaucoup d'autres. Mais voyez... Ces grandes questions de la Bible, elles ont besoin d'auditeurs qui soient eux-mêmes au niveau de ces questions. Parce que sinon, bof, hein, je lis la Bible comme je lis un roman policier, mais ça ne marche pas. Alors donc je referme très vite la Bible parce que le roman policier est beaucoup plus intéressant, si je suis à ce niveau-là, que la Bible. Hein, voilà. Et c'est aussi un lieu, vous voyez, il me semble, où on peut vivre... ce que j'appelle de manière un peu pompeuse le combat spirituel de la raison. Voyez, la raison n'est pas une faculté neutre. La raison, c'est une des facultés humaines inséparables de ma liberté. Et donc, il y a un combat spirituel en face des questions qui engagent la vérité, l'erreur, le mensonge. Voyez. Et quand vous êtes prof de philo, eh ben, vous n'allez pas simplement faire un paysage, ça, de toutes les pensées qui ont fleuri dans l'histoire. Il faut qu'à certains moments, vous vous risquiez à dire des oui qui soient des oui et des non qui soient des non, sans pour autant conditionner et, comment vous dire, et téléguider ce qu'est, parce qu'une intelligence ne grandit que dans la liberté, voyez. Mais la liberté, elle a besoin de témoins, hein, elle a besoin d'attestations. Et si au nom de la neutralité, je ne m'engage sur rien, mais comment je vais permettre à un jeune d'être libre dans l'exercice de sa raison et d'être rationnel dans l'exercice de sa liberté, ou raisonnable, disons plutôt, hein, voyez. Donc là, il y a aussi un combat spirituel, parce que c'est jamais simple. De prendre le risque de dire ben ça oui, ça non, et voilà pourquoi. Parce qu'en plus, il faut dire pourquoi. Et si vous dites simplement, c'est parce que mon catéchisme l'interdit, je ne suis pas sûre que ça suffira comme motivation pour les jeunes. Vous voyez, il faut arriver à argumenter un peu ce qu'on dit. C'est pas, la foi n'est pas absurde, la foi n'a pas peur de la raison. Donc il ne faut pas non plus en avoir peur. Voilà, alors dernier point. Ah voilà, j'ai fait tout ça en tant que femme. Alors là, je fais un discours genré, donc je suis un mille de la... Voilà, du politiquement correct. Voilà. Il se trouve que au Centre Sèvres, donc les facultés jésuites, il y a le 30 et le 31 mars un colloque qui est le fruit de tout un groupe de travail qui s'est réuni déjà depuis 2 ans et auquel j'ai eu le plaisir de participer. Et le titre du colloque, c'est « Femmes et philosophie, penser autrement, ? La question qui nous a occupés, c'était de savoir si quand on est une femme, on fait de la philosophie différemment que n'en font les hommes, ou si finalement, l'intelligence est asexuée. C'est une question intéressante quand même. Voyez. Bon. Et donc voilà. Et alors moi, je voudrais vous dire, tout simplement, et très rapidement, trois mots exactement, que, vous savez, c'est Saint Augustin, il dit... le temps, je sais très bien ce que c'est, mais dès qu'on me demande de le définir, j'en suis incapable. Et la différence homme-femme, je sais très bien ce que c'est, mais dès qu'on me demande de la définir, j'en suis absolument incapable. Et je tombe dans des stéréotypes usés jusqu'à la corde pour dire ben, les hommes, ils sont virils, courageux, forts, les femmes, elles sont douces, accueillantes. Bon, c'est insupportable. Vous êtes d'accord? Insupportable des deux côtés. Bon. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut quand même essayer de s'approcher très délicatement de ce qui fait tout de même la relation différenciée de l'homme à la femme et de la femme à l'homme. Quand même, faut dire, voilà, tout n'est pas, il n'y a pas une essence féminine et une essence masculine, mais il y a une relation homme-femme dans laquelle les deux pôles ne sont pas absolument identiques, tout en étant bien sûr absolument égaux. Oui. Mais ils ne sont pas identiques. Alors, quelles sont les notes, j'ai envie de dire juste des notes, pour ne pas figer, justement, quelles sont les notes, peut-être féminines, en tous les cas, moi, je les ai vécues comme ça, de l'enseignement de la philo, quand c'est une femme qui enseigne la philo. Trois mots me sont venus, et je crois que c'est ça que je dirais au colloque. Le premier mot, c'est le mot « hospitalité ». Je pense que c'est important, comme femme, de déployer la vertu d'hospitalité, accueillir, recevoir, tout simplement, comme on dit qu'on reçoit quelqu'un chez soi, voyez. Accueillir, recevoir, voyez. Cette posture d'écoute, d'attention donnée, a priori, d'écoute bienveillante, a priori, voilà, quand on pense, on a de la chance parce qu'au XXe siècle, on a quand même au moins 3 grands noms de femmes philosophes, Hannah Arendt, Simone Weil et Edith Stein. Puis il y en a d'autres, mais je prends ces 3-là. Et bien ces 3 femmes, vous voyez, ont pratiqué une hospitalité intellectuelle magnifique. Pensez Hannah Arendt par rapport à Aristote ou à Saint Augustin, parce qu'en fait elle a vraiment la deux sources. Pensez Simone Weil par rapport à Platon. Et penser Edith Stein par rapport à Husserl, et à Saint Thomas d'ailleurs aussi. Voyez, donc cette idée que, et elles n'ont pas répété bêtement, voyez, elles ne sont pas simplement dit voilà, on est, mais simplement elles n'ont pas fait l'acte cartésien, je repars à zéro, qui est aussi l'acte de Husserl et qui est aussi l'acte de Kant. Voyez. Kant, il a eu besoin de Hume pour le réveiller de son sommeil dogmatique, mais une fois qu'il était réveillé, il n'avait plus besoin de personne. C'était lui tout seul. Non, mais vous voyez, c'est quand même intéressant, les expressions comme ça. Voilà. Eh bien, il me semble, sans faire de généralité trop insistante, que la vertu d'hospitalité peut s'exercer dans la vie intellectuelle et que c'est important. Bon. Une autre vertu importante, enfin, un autre mot que je retiens, c'est le mot « altérité ». La femme, elle porte l'autre dans son propre corps, par la maternité. Et donc, cette sensibilité à l'autre, cette capacité de mettre en dialogue est importante. Vous voyez, je vous disais Simone Veil, Platon, mais Simone Veil, elle s'est autant intéressée aux traditions folkloriques, qui, vous voyez, à la culture du Pays d'Oc, par exemple, m'intéressait à les folklores du sud de la France. Voilà, et elle a mis en dialogue Platon et ses folklores. Bon, Anna Arendt, elle s'est intéressée à Aristote, mais aussi à Saint-Augustin. Elle a mis en dialogue Saint-Augustin et... Bon, Edith Stein, c'est l'exemple le plus intéressant. Edith Stein, elle était vraiment complètement immergée dans la phénoménologie, puis elle devient chrétienne. Et là, à l'époque, être chrétien, il fallait être thomiste. Voilà, c'était... théologie chrétienne était la théologie thomiste. Bon, ben, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle lit Saint Thomas. Elle traduit d'ailleurs Saint Thomas aussi. Et puis elle met en dialogue Husserl et Saint Thomas. Et c'est formidable. Et voilà. Cette rencontre de l'altérité qui là aussi, vous voyez, n'est pas simplement une espèce d'assimilation passive de l'autre, n'est-ce pas ? Mais une façon d'entrer en dialogue. D'entrer en dialogue. Et j'ai remarqué, après coup, enfin quand j'ai réfléchi un peu là-dessus, j'ai remarqué qu'en fait, c'est ça que j'aimais dans l'enseignement de la philo. C'était exactement ça. C'est-à-dire, par exemple, Platon, pour reprendre l'exemple de Platon, il y a des textes très argumentés, puis vous avez des mythes. Donc, il met en dialogue l'imagination et la raison, tout le temps. Bon. Et en fait, moi, ça me passionnait de faire étudier aux étudiants le rapport entre les deux. Bon, alors voilà, c'est une manière de faire comme une... Et le troisième mot, c'est le mot intériorité. Le mot intériorité, vous savez, il y a un très beau livre de Pierre Hadot sur la philosophie grecque comme, en fait, école de vie spirituelle. Pas école de vie spirituelle chrétienne, vous voyez, mais école de vie spirituelle, c'est-à-dire école d'intériorité. Oui, pardon,
vous avez... J'en ai parlé en long, en large et en travers cet été.
Oh, bah parfait.
Ils ont tout oublié.
Ils savent... Mais non, j'ai vu des airs d'intelligence. Il y avait des airs d'intelligence qui ne trompaient pas.
Ils n'ont pas oublié.
Ils ne trompaient pas. Voyez. Bon.
C'est magnifique livre. Magnifique.
Cette capacité, vous voyez, de rejoindre le monde intérieur, hein, et pas seulement le monde extérieur. Et les deux sont pas, il n'y a pas de cloison étanche entre les deux. À l'intérieur était en question, c'est pas le solipsisme, c'est pas la méditation transcendantale et le repli du sujet uniquement sur son intériorité. Mais c'est la profondeur du réel, en fait. Voyez, c'est la profondeur du réel. Et là, de nouveau, Edith Stein, bon, ben, tout le cœur de sa pensée, c'est sa réflexion sur le noyau de l'âme, où Dieu habite. Simone Veil, si vous avez lu L'Enracinement, bah, toute la première partie de L'Enracinement, c'est sur les besoins de l'âme. Elle écrit ça en 1943 pour la France libre, pour que, quand la France va être libérée, hein, en 1943, il commence à espérer un petit peu, eh bien, elle est à Londres, elle travaille avec André Philippe, le général de Gaulle, etc. Et on lui confie d'écrire ce qui serait important pour la France de demain. Et elle écrit les besoins de l'âme. Et elle décrit les besoins de l'âme. Allez, intériorité. Ah. Anna Arendt. Alors Anna Arendt, vous allez me dire, ah ben elle, c'est pas pareil. Mais sauf que quand elle réfléchit sur ce qui construit l'histoire humaine, eh bien de quoi parle-t-elle ? Du pardon et de la promesse. Ah, intéressant. Mais s'il y a deux attitudes qui sont bien, qui ont leur source dans l'intériorité, c'est bien ces deux attitudes-là. Voilà. Alors, voilà, finalement, enseigner en femme, c'est pas très différent d'enseigner en homme, mais il y a peut-être des notes, vous voyez, des notes auxquelles il faut être vigilante si on est une femme. Hein. Puis, ça serait très intéressant que des hommes fassent cette réflexion aussi de leur côté, hein, parce qu'encore une fois, ce qui est intéressant, c'est la relation des deux. Hein, voilà. Alors, j'avais demandé à Clément, combien vous seriez ? Parce que j'avais envie de vous faire un petit cadeau. Mais alors, je n'ai pas fait du tout assez de photocopies. Donc voilà, je crains que vous ne l'ayez pas tous, mais vous ne perdez pas grand-chose quand même. Voilà. En fait, c'est un petit texte. Je ne sais même plus très bien à quelle occasion je l'avais écrit. Enfin, c'est ma prose, hein. C'est un peu ridicule d'offrir sa prose, mais Voilà, comme on ne se rencontrera plus, ben voilà, c'est l'occasion de faire un petit cadeau. Et en fait, on m'avait demandé de donner mon témoignage sur ce que ça voulait dire vivre une vie apostolique comme professeur. Comme c'est un peu le sujet que tu m'avais confié, je me suis dit, ce petit texte peut peut-être... Alors, c'est comme une espèce de litanie sur ce que j'ai appelé l'apôtre éducateur. Voilà. Et puis alors, j'ai essayé de déployer un peu. Voilà. Donc, j'ai un petit cadeau, simplement, pour... Voilà. Donc, vous le prendrez en sortant. Marguerite. Vous le prendrez en sortant. Et est-ce qu'on a encore quelques minutes pour un échange? Je ne sais pas.
Hein? On peut vous poser des questions?
Ah, ben, bien sûr.
D'abord, on applaudit. Oui. C'est pas cette tête.
Oui. J'en prends une pour moi.
Oui, oui, non, mais c'est pas... Je crois que c'est la revue Vocation.
Est-ce que vous avez... Merci vraiment beaucoup pour ce magnifique témoignage.
Ben, c'est
je suis reconnu dans pas mal de points. Et vous savez, la phrase de Jésus, j'avais choisi comme... je l'ai peut-être déjà dit, mais j'avais choisi sur les faire part d'ordination.
Ah, ben voilà.
Mais sur mon faire part d'ordination, ça, c'est un otage, j'avais dit exactement le...
Et ben voilà, exactement.
Jésus, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité.
À la vérité, c'est tellement...
Et ça m'a toujours beaucoup frappé, cette...
Ah oui, pour moi, cet épisode est fondateur.
Est-ce qu'il y a une autre question?
Vous avez aussi le droit de contester, hein, ou de compléter. Oui.
Moi, j'ai une question sur... est-ce que dans votre parcours personnel, mais aussi chez les élèves que vous avez accompagnés, vous avez dû résoudre des difficultés que la philosophie pose à la foi, et parce qu'on a quand même parlé,
oui.
Mais quand vous avez parlé du combat spirituel de la raison, pour moi c'est évoqué notamment les difficultés de la foi qui se posent en philo quand on lit Freud, Nietzsche, Je me demandais comment vous avez pu vivre ça vous, ou le constater chez les élèves. Parce que pour moi, c'est des difficultés que j'ai vécues en prépa, en découvrant ces auteurs-là.
Oui, oui, bien sûr. Oui, non, mais c'est une très bonne question. Et de fait, moi, il m'est arrivé de faire des cours sur Nietzsche, par exemple. Hein. Freud, non, parce que Freud, on le fait en terminale, hein, souvent, mais ça me paraissait pas... Quand moi, j'étais étudiante, hein, là, en face, Freud était très, très à la, très, très à la mode, si je peux dire, même en philo. Mais c'est plus tellement le cas maintenant. Par contre, Nietzsche est un auteur qu'il faut pouvoir rencontrer. Et donc, là aussi, vous voyez, en disant des oui et en disant des non. Et à mon sens, on peut le faire... Enfin, je sais pas, je trouve que Nietzsche a des choses à nous apprendre, si je peux dire, vous voyez. Vraiment, simplement, il faut arriver... Mais ça, je crois que les étudiants... peuvent entrer là-dedans. Hein. Alors, je ne sais pas, peut-être que certains étudiants ont perdu la foi, malgré mes... Mais il faut bien comprendre où est le point de départ, voyez, parce que une origine, c'est un destin. Hein. Donc, quand le point de départ est dans, par exemple, l'ordre de la vie, avec le modèle de la vie biologique qui est... la survie du plus apte et l'élimination du non-apte, ça c'est le point de départ. Donc ensuite, Nietzsche déploie une intelligence prodigieuse, hein, à exploiter et transposer ce point de départ. Mais forcément, ce point de départ, c'est aussi une œillère qui l'empêche de voir autre chose. Donc quand on arrive à pointer pour des auteurs qui peuvent être très hostiles à la foi chrétienne et donc susciter effectivement un véritable débat ou une véritable difficulté intellectuelle, si on arrive à voir d'où ils partent, voyez, et du coup ça permet de faire droit à l'immense, on ne lirait plus Nietzsche si tout ce qu'il avait dit était faux, voyez. Si on lit encore Nietzsche aujourd'hui, c'est parce qu'il a dit des choses qui nous éclairent aujourd'hui sur des faits de société, des dimensions de notre propre humanité, etc. Mais est-ce que je fais de cela la clé de tout ou pas? Vous voyez? Enfin, je ne sais pas si je vous explique bien, mais moi, c'est un peu toujours ça que j'ai essayé de comprendre. C'est ce qui, dans un auteur, ouvre un chemin d'intelligence et en même temps ferme d'autres chemins. Et bon, je ne sais pas si ma réponse est suffisante, mais c'est un peu comme ça, je pense qu'il faut... Enfin, c'est dans cette ligne-là qu'il faut chercher, je crois.
Erwan.
Quand vous avez étudié un peu les trois questions en scène, vous avez dit que la troisième est la plus... peut-être celle qui intéresse le plus, etc. Et c'est assez significatif que... Enfin, on attendrait un peu spontanément d'un professeur de philosophie qui s'intéresse spontanément à la deuxième question.
Oui.
Que dois-je faire?
Oui.
Parce que l'enseignement de la philo morale prend une certaine place en terminale. Oui. Est-ce que le fait que vous en ayez, si j'ai bien écouté, quasiment pas parlé de cette philo morale, de ce que dois-je faire, et que vous centriez plutôt sur la vérité, est-ce que c'est lié au fait que c'est. Enfin, à quoi est-ce que c'est lié au fait que ça ne peut pas être reçu tel quel en enseignement?
Non, je ne crois pas, je dirais pas ça. Je dirais pas ça parce que je pense que c'est important de là aussi hein, d'exercer son discernement dans le champ de l'action. Hein, c'est même très fondamental. Pour moi, c'était pas une. Vous voyez, il fallait que je mette l'accent. Je peux pas tout dire. Voyez, il n'y avait pas, je pense, de rejet de ma part d'une réflexion sur l'action. Hein, Florian sait que je suis aussi un peu une blondélienne. Et donc, à ce titre, bon, Blondel est un philosophe qui n'est pas beaucoup lu, mais qui est un grand philosophe français de la première moitié du XXe siècle, et qui a écrit sa thèse, sa thèse d'université. Il lui a donné comme titre l'action. Et du coup, quand il a été présenté son sujet, alors, vous voyez, dans le contexte positiviste, etc., on lui a dit, mais l'action, ce n'est pas un problème philosophique. Alors il a tenu et persévéré et il a écrit un texte qui est un très grand texte de philosophie. Donc voilà, hein, c'est pas du tout un rejet de ma part. Il faudrait voir comment.
Je veux dire dans l'enseignement plutôt. Personnellement, mon sens de la philo morale en terminale,
oui.
C'est très intéressant de voir
oui.
Comment les différents philosophes construisent des injonctions morales.
Tout à fait.
Oui. On envoie des injonctions dans tous les sens.
Oui.
Pas rarement vraiment contradictoires parce qu'en fait, on s'accorde à la chose, mais ça n'a jamais constitué pour moi le fondement de la vie morale.
Ouais.
Et ma question, c'est de me dire, est-ce que dans l'enseignement, en fait, est-ce que ça peut servir à quelque chose de la vie morale?
Oui, c'est un trait. C'est vrai que en plus, faut dire que les étudiants, ça les intéresse beaucoup, hein, plus que l'épistémologie, par exemple. Oui. Et ça, c'est encore vrai en Hippocagne. En Cagne, il me semble, je sais pas ce qu'en disent les ex-cagneux. Là, vous êtes beaucoup d'ex-cagneux. Hein. Les questions de philosophie morale sont des questions très intéressantes. Et en plus, l'articulation philosophie morale, philosophie politique est quelque chose de très important. Vous voyez, on peut pas se dégager de ça en disant ça ne me concerne pas. C'est pas vrai. Ça nous concerne vraiment. Donc merci, hein, parce que c'était un accent que j'avais pas mis et que vous mettez de manière tout à fait pertinente. Oui.
Alors une question, mais enfin, c'est un peu moins évident, parce que c'est un philosophe, mais j'ai l'impression, typiquement pour les manières plus scientifiques, l'idée de pouvoir pré-évangéliser par la vérité, c'est quelque chose qui ne paraît pas du tout évident. Déjà parce que j'ai l'impression que les sciences peuvent facilement être assez orgueilleuses justement par une notion de vérité d'exigence, en particulier dans un contexte où bah, justement la philosophie peut facilement passer au second plan et donc en fait on peut avoir une très grande disproportion dans l'individu entre des sciences positives très très
consolidées,
très orgueilleuses. Et donc c'est là où en fait ça paraît pas être évident pour un professeur.
Oui. Je ne sais pas, est-ce que j'ai bien compris votre question? Est-ce que c'est au niveau de l'enseignement, là vous pensez de l'enseignement, ou vous pensez plutôt, et c'est...
La vision d'un enseignant, les scientifiques.
Oui, c'est ça.
Étienne est mathématicien, pour vous éclairer.
Mais voilà, oui.
Vous l'avez peut-être deviné, mais...
Je me souviens que là aussi, quand j'étais étudiante, donc il y avait le père Daniel Lou, qui était donc un des fils de notre fondatrice et qui était un grand théologien. Enfin, très. Et alors, il a été pendant un certain temps un peu dans la charge qui est la vôtre maintenant, c'est-à-dire d'être. Alors lui, il y avait à l'époque Ulm et Sèvres, hein, c'est-à-dire que les garçons et les filles étaient séparés. Et lui, il était l'aumônier de Sèvres. Et il disait toujours qu'il trouvait beaucoup plus de santé intellectuelle chez les scientifiques que chez les littéraires. Et que du coup, non mais c'est intéressant, et que du coup, quand il s'agissait justement de la question de la vérité, de l'évangélisation de l'esprit à travers la recherche de la vérité, il trouvait plus de points de départ solides chez les scientifiques. Alors bon, moi j'ai pas l'expérience, hein, mais c'est réconfortant pour vous d'entendre ça. Non, je sais pas si c'est pratique, mais c'est en tous les cas réconfortant parce que enfin, je vois, j'ai des scientifiques et des scientifiques d'assez haut niveau dans ma famille, et c'est vrai qu'ils sont pas scientistes, ils sont pas positivistes, et ils sont extrêmement ouverts au spirituel parce qu'ils se rendent compte des exigences d'une connaissance vraie. Et que du coup, ben, on ne peut pas dire n'importe quoi en mathématiques, on ne peut pas dire n'importe quoi en physique. Et donc ben, ça doit être pareil dans la théologie, ça doit être pareil dans la vie spirituelle. On ne peut pas faire n'importe quoi, ni dire n'importe quoi. Vous voyez, il y a une espèce de... Enfin, je suis peut-être très idéaliste en disant ça, mais quand même de structuration intellectuelle opérée par les sciences qui est très, très précieuse. Continuez à faire des maths. Oui.
Je me demandais, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de frustrant, vous parlez de faire grandir les élèves en humanité, de développer leur humanité, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de frustrant lorsqu'on sème des petites graines et qu'on ne voit pas forcément les fruits, parce que l'enseignement, c'est quand même quelque chose qui se passe sur le long terme, on transmet des savoirs, mais finalement, on n'a les élèves qu'un an.
C'est ça qui est...
Est-ce que vous avez quand même une vraie joie à voir certains élèves grandir dans leur foi et...
Alors, je vais vous dire... Moi, j'ai beaucoup de chance parce que je suis donc dans une institution hein, où il y a des anciens élèves, et on a des anciens élèves qui, pas tous bien sûr, mais qui reviennent. Moi, j'ai une joie très grande à voir ici au moins deux anciens élèves, même si j'étais plus directement en poste, mais enfin, j'étais quand même un petit peu dans le circuit. Hein. Bon, donc j'ai une chance folle. Mais je voudrais ajouter autre chose. C'est que je pense que ça fait partie, je ne sais pas s'il faut dire de la joie, c'est peut-être trop fort, mais en tout cas de la grâce de l'enseignement, en tout cas pour un enseignant chrétien, d'être dans un métier dans lequel il sème sans forcément récolter. Pourquoi c'est une grâce? Parce que ça fait sortir du régime du donnant-donnant. Voyez, du régime économique qui régit la vie dans laquelle nous sommes. Voyez. Et là, on entre dans un autre domaine qui est celui, au fond, quand vous faites un cadeau à quelqu'un, la première chose, bon, vous allez acheter le cadeau et puis vous gommez le prix. Hein, vous gommez le prix, toujours, quand vous faites un cadeau. Vous ne dites pas, tu sais, je t'ai fait tout mon truc là, que je t'ai offert, j'ai payé 300 euros. Vous ne dites jamais ça. Voyez. Pourquoi? Parce que le cadeau relève de l'ordre de la gratuité. Et, bon. Et d'une certaine manière, l'enseignement, alors bien sûr, faut être payé quand on est prof, hein, c'est trop clair, mais il ne se réduit pas au contrat, voyez, au contrat de voilà, donnant-donnant, parce que vous donnez quelque chose dont vous ne savez pas quand et comment ça va fleurir. Vous ne savez pas si ça va fleurir, même tout court. Donc vous ressemblez plus au jardinier que au, je sais pas moi, qu'au fabricant de d'automobiles. Et finalement c'est très beau parce que ça laisse beaucoup de liberté des deux côtés. On est de passage, je suis de passage, bon ben, enfin j'étais parce que je suis... Alors on est de passage et les jeunes ils sont aussi de passage. Ils font pas leur vie dans la classe de d'Hippocagne. Hein. Ben non, leur vie, elle est au-delà. Vous voyez, hein? Alors c'est peut-être un peu exigeant ce que je vous dis, mais je pense qu'en fait, il y a une vraie joie à ça. Parce qu'alors du coup, enfin, je vais encore vous raconter un truc, mais c'est vrai que depuis 10 ans, là, 15 ans, 20 ans, ça m'est beaucoup arrivé de circuler dans différents endroits en France pour parler éducation, enseignement, je ne sais pas quoi, enfin des trucs. Bon. chaque fois que j'allais dans un endroit, il y avait toujours, pratiquement toujours, quelqu'un qui arrivait pour me dire « J'ai été votre élève en telle classe, telle... » Bon, c'était des milieux chrétiens, hein, donc forcément, c'était... Bon, c'est pas... Il faut pas généraliser non plus. Et alors, du coup, ça me paraissait mais complètement gratuit, parce que je m'y attendais pas du tout. Vous voyez, c'était la surprise du chef, quoi. Tout d'un coup, quelqu'un vous dit merci. Et tout d'un coup, quelqu'un ben, vous dit que ça a compté pour lui. Et vous vous rendez compte à ce moment-là que ça a dû compter aussi beaucoup pour vous, parce que vous avez une telle joie à le retrouver. C'est étonnant. Bon, mais c'est peut-être un peu idéalisé, un peu, vous savez, il faut vous méfier de mon optimisme.
J'ai une dernière minuscule question, puis après on ira avec compliments. Je reprends les trois questions de Kant, là. Que puis-je connaître, ça fait... Ça se rapporte au transcendantal du vrai. Que dois-je faire au transcendantal du bien? Que m'est-il permis d'espérer? Vous mettriez par rapport à quoi?
Transcendantal du beau.
Mais à cause de la gratuité, comment vous faites?
À cause de la gratuité. Et puis sans doute au transcendantal de l'un. Parce que finalement, l'espérance, c'est
l'espérance. Mais moi, je voyais plutôt le beau que l'un.
Hein?
Non?
Plutôt le beau que l'un. Je
oui,
sais
parce
pas.
Que je me dis que si on espère, ça doit venir espérer quelque chose qui serait purement et simplement le résultat de notre action.
Oui,
on est déçu. On veut être surpris.
Oui, oui.
Ce qu'on espère, on veut que ça nous surprenne.
Oui, exactement. Et on ne met pas la main dessus.
Et ça, je vois bien la gratuité.
Oui, c'est vrai. Et donc,
ça, la tâche du philosophe, c'est donner le vrai sens du beau. Vous diriez ça alors?
Oui, on pourrait dire ça. Et aussi parce que le beau, Kant a très bien dit ça aussi, il plaît, c'est-à-dire il fait plaisir. Il y a une dimension affective forte, voyez, et dans l'espérance aussi. On n'espère pas un mal, on espère toujours un bien. Donc quelque chose qu'on désire. Donc,
voilà. Ouais, vite aujourd'hui, même si c'est plus compliqué dans le contexte culturel, sociétal et tout, pour un prof de philo de sensibiliser au vrai, ou bien il peut le faire, mais la première porte d'entrée, c'est
ça serait plutôt ça serait le beau.
Oui, le désir, le beau.
Je ne sais pas, enfin, c'est, vous savez, moi je ne suis plus prof depuis...
Faire que les gens soient plus blasés, en fait, c'est un peu
oui,
ça
c'est
aussi.
Ça.
Et puis, non, mais c'est un peu le niveau où la question de Dieu se pose.
Non, mais c'est important. Mais oui, et puis être prêt à... Souvent attendre quelque chose, vous voyez, ce qui est dramatique, c'est quand les gens, la société et les élèves n'attendent plus rien de l'école. Vous voyez, là, c'est foutu, quoi. Vous voyez. Ça, c'est... Voilà. Allez.
Merci beaucoup.
Allez.
Merci.
Je vous rends la Bible. Je vous rends la parole de Dieu.
En général, on termine par les petits, mais si vous voulez rentrer tout de suite, parce que c'est quand même peut-être un peu tard.
Alors,
vraiment, si prenez un taxi sans aucun problème, et puis vous envoyez au prince, ou vous envoyez mon adresse mail, vous envoyez ma petite note.
Si j'en vois un sur mon chemin, je prends, et sinon je prends tranquillement le truc.
Voilà, mais si ça ne vient pas, s'il y a la grève, ces trucs, vraiment, et vous m'envoyez une petite note, et puis je vous sans problème, vraiment sans problème.
Mais ça m'en doute pas pris avec vous, mais c'est vrai que j'ai...
Ça nous fait, ouais, ça laisse de le faire... Non, pas 11h, on a un peu 4 heures de plus, enfin 10 minutes de plus. Peut-être c'est plus raisonnable. Moi, je suis très heureux si vous voulez.
Mais je me dis.
Oui. Vous voulez qu'on chante maintenant un peu partout? Allez, attendez l'état, 2 secondes. Parce que comme c'est déjà un petit peu tard et que Marguerite habite pas tout à fait à côté, elle va partir, mais elle voudrait quand même qu'on se quitte pas sans avoir prié. Parce que, comme elle dit, j'ai pas prié avant, j'ai pas prié après. Alors non, ça sera un peu triste. On va prier après. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut chanter un «
Je vous salue Marie ».
Trône de la sagesse.
Voilà, trône de la sagesse.
Sainte patronne des philosophes.
Table intellectuelle de la foi.
Voilà. C'est très beau.
Ça doit faire rire la
Sainte-Pierre. Ben, moi, je crois pas. Moi, je crois pas. Je vous dirai que j'ai pris une fois pourquoi. C'est à cause de ma sœur, mais... Chut. Très Sainte Vierge Marie, nous voulons tourner vers vous et vous remercier de nous conduire avec vos mains de mère vers le Christ, chacun de nous. Nous confions à vous, nous vous confions Marguerite, tout ce qu'elle a réalisé, ce qu'elle nous a enseigné ce soir. Je vous salue Marie,
pleine de grâce, le Seigneur est avec vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le Fils. pécheurs.